creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say
et bienvenue dans cette nouvelle émission du Petit Bazar, la quatrième édition si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Vous êtes sur Radio Canus 102.2 et donc vous êtes dans le Petit Bazar, l'émission où vous venez faire votre marché musical. Donc je suis avec Julien aujourd'hui.
Salut.
Et malheureusement Nicolas est absent, il est au Démon d'Or.
Ouais, il allait faire un festival.
Il parle depuis un mois en fait, donc voilà. C'est un peu cohérent quand même qu'il a.
Oui c'est cohérent, mais festival. Alors il faut savoir quand même qu'il s'en est rappelé il y a trois jours. Voilà, ça c'est pour vous situer.
Oui, c'est vrai qu'on était en pleine réunion, mais on va passer quoi dimanche. Il fait, ah au fait, on va passer ça, puis finalement je viens pas, donc vous passez pas ce que je passe. Voilà.
Sacré Nico, en tout cas on lui fait un coucou, on espère qu'il s'amuse bien.
Voilà. Donc vous venez d'entendre notre merveilleux jingle de la semaine, I Am What I Am de Gloria Gaynor. C'est assez, je sais pas, c'est un peu indescriptible comme chanson. C'est le genre de chanson qu'on aime bien se souvenir qu'elle existe, et puis quand on l'écoute, on se dit, ah ouais, quand même.
Et en vrai qu'on aime bien un peu malgré nous aussi, le faut l'avouer.
Mais on vous expliquera pourquoi on a passé ça après, c'est pas gratuit, on met pas du Gloria Gaynor comme ça tous les jours. Donc voilà. Je crois que Julien va commencer avec les nouveautés.
Oui, on va commencer par quelques petites sorties 2014, comme d'habitude, et on va essayer de commencer ce dimanche midi un peu en douceur, en beauté en tout cas, avec les divines harmonies vocales de deux sœurs suédoises, les sœurs Soderbergh, qui opèrent sous le nom de First Aid Kit. Alors c'est un nom, donc kit de premier secours qu'elles portent très bien, puisque effectivement elles nous soignent tout en délicatesse, et c'est les plus américaines vraiment des sœurs suédoises, hein, puisque depuis trois albums elles proposent en fait un folk un peu aérien, matinée de country, avec des arrangements très vaporeux qu'elles relèvent de superbes mélodies, vous allez voir, où leurs deux timbres s'entremêlent à la perfection. Et en somme, c'est une musique qui est vraiment très inspirée par la musique traditionnelle américaine à guitare. Et sur leur troisième album, donc, qui est sorti il y a quelque chose comme deux semaines, s'appelle Stay Gold. Ce troisième album continue un peu sans surprise, mais avec toujours autant de brio, cette quête des grands espaces justement américains, à l'image de la chanson titre qu'on va passer, qui s'appelle Stay Gold, qui s'installe, vous allez voir, sur des chœurs et des couplets mélancoliques avant d'exploser en toute délicatesse une nouvelle fois sur un beau refrain en harmonie vocale. On écoute ça maintenant. 102.2 Radio Canu, c'est la quatrième du Petit Bazar et c'était les belles harmonies vocales de Sir Soderbergh de First Aid Kit avec Stay Gold. Alors juste un petit point, donc voilà, deux sœurs suédoises pour dire un peu, faire état de la santé en ce moment du folk suédois, alors qu'il y a un genre qui n'est pas nouveau, comme on le disait en off avec avec Max. C'est vrai que ça fait un petit moment que la Suède excelle dans l'art du folk, mais aujourd'hui il y a vraiment encore des artistes qui portent le flambeau. Alors on pense à un peu le parrain qui s'appelle Jens Lekman, qui fait aussi un peu de la pop électronique, mais qui a démarré en folk et qui a toujours fait des disques très très intéressants. Et outre donc First Aid Kit, qui a une reconnaissance critique et publique également aux États-Unis, donc qui est un peu, c'est des groupes qui sont un peu adoubés par leur pays d'adoption. On peut penser également à ce grand gringalet qui porte le sobriquet de The Tallest Man on Earth, que personnellement j'aime beaucoup, qui a fait trois albums qui sont également très beaux, que je vous conseille, voilà, donc juste pour faire état un petit peu de cette santé du folk suédois en ce moment. Et puis voilà, donc on va passer à une deuxième nouveauté. Alors là, vous voyez, on avait des Suédoises qui allaient chercher les grands espaces américains, et là on va faire un peu le chemin inverse, puisque c'est des Américains qui vont aller essayer de passer une journée ensoleillée à Glasgow, c'est ça Max?
Ouais, c'est pas vraiment des Américains, enfin c'est un moitié
australo-américain.
Ouais, c'est un groupe un peu chelou en fait. Donc c'est un groupe qui s'appelle Sunny Day in Glasgow, un groupe de dream pop et d'ambiance et de shoegaze qui a été fondé en 2006. Le line-up a énormément changé depuis 2006, donc le seul membre permanent c'est Ben Daniels, qui compose tout en fait, qui écrit les paroles mais il chante pas. Enfin, il joue de la guitare, il compose et il écrit. Les chanteuses par contre que vous allez entendre, ce sont deux voix féminines, s'appellent Annie Fredriksson et Jane Goma. Et en fait le groupe est basé à la fois à Philadelphie et à Sydney. Et ce qui est intéressant, et notamment dans la manière dont ils ont créé et enregistré ce quatrième album qui s'appelle See When Absent, qui vient de sortir, c'est que le groupe ne s'est pas réuni en studio tous ensemble pour faire l'album. Ils sont 5 ou 6 membres, hein, en tout. Mais ils ont chacun composé dans leur coin après des longues discussions par mail, où ils avaient grosso modo les lignes principales de composition. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils se sont envoyés par Skype et sur d'autres logiciels de ce genre ce qu'ils avaient composé, et ils l'ont monté avec différents logiciels. Et du coup, quand on écoute le disque, on a vraiment une impression de gros collage musical, par moments très très lofi, par d'autres moments très très soigné, puisqu'ils ont fait appel pour ce disque, et c'est la première fois dans l'histoire du groupe, à un vrai producteur, et c'est le mec qui a signé le dernier album de Kurt Weill ou le dernier War on Drugs. Donc c'est quand même une production plutôt léchée à la base, et il y a des moments où ça s'entend quand même ce son, enfin ce type de son là très américain, un peu planant sur les pistes de guitare et sur les pistes de synthé. Et du coup l'album est assez novateur dans la forme, dans la manière dont il est construit, et c'est assez expérimental. Donc là je vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle MTLOV Minor Keys, qui est je crois un des singles de l'album et qui est une des chansons les plus mélodieuses du disque.
Don't say.
Sunny Day in Glasgow avec MTLOV Minor Keys 102.2. Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le petit bazar. Donc pour info, cela c'est quand même une des plus accessibles du disque, une des plus mélodieuses, une des plus pop, une des moins déconstruites et déstructurées. L'album commence quand même sur deux chansons assez expérimentales, un peu plus agressives, que j'aime aussi, hein, mais voilà, là c'était le côté plus doux, plus dream pop de l'album. À écouter, c'est vraiment un très très beau disque, je trouve. Et donc Julien, t'as un dernier truc, je crois, à nous passer dans les nouveautés ?
Ouais, bah on va continuer à voyager, donc on a fait la Suède, on a fait les États-Unis et l'Australie, et maintenant on va aller au Canada. Seulement de la pop éthérée qu'on vous a passé jusque là, on va passer à quelque chose d'un peu plus musclé, avec un genre qui lui aussi connaît depuis ces dernières années une seconde naissance, un peu comme comme par exemple le shoegaze ou comme la folk suédoise dont on a parlé tout à l'heure, j'ai nommé le post-punk. Alors on pense à donc d'autres groupes du moment qui cartonnent un petit peu, c'est Mets, Ice Age, et donc à ce trio de Vancouver qui s'appelle White Lung et qui fait à juste titre sensation en ce moment, et qui comme ses petits copains donc de Mets par exemple joue du post-punk un peu à l'ancienne et comme en 80, c'est-à-dire pied au plancher avec de la ferveur au micro, avec des doigts de feu à la basse et avec un monolithisme un peu premier degré, un esprit de sérieux qui ne fait que rendre le tout plus jouissif encore. Et leur second album qui s'appelle Deep Fantasy ne fait pas d'ailleurs dans la dentelle, hein, et ne cherche pas non plus la complication. C'est 10 chansons, 22 minutes et un tempo qui reste uniforme pendant toute la durée du disque, c'est-à-dire complètement frénétique. mais on évite en fait toute monotonie et toute lassitude à l'écoute de cet album, d'une part donc grâce à l'extrême concision de la galette qui fait voilà à peine plus de 20 minutes, mais surtout grâce à la variété et à l'intuition mélodique du groupe, puisque oui, des fois dans le post-punk il y a aussi de la mélodie. Comme en atteste l'un des singles au titre sans équivoque quant au contenu du disque, le morceau s'appelle Face Down, et c'est une salle, vous allez voir, aussi brutale qu'en fait entêtante, où l'on va pouvoir découvrir les vocals charismatiques de la chanteuse Mish Way, et c'est aussi la chanson la plus longue de l'album avec une durée absolument épique de 2 minutes 37. C'est parti. Voilà, c'était White Lung avec Face Down, un extrait de leur deuxième album Deep Fantasy. Voilà, j'irais presque jusqu'à appeler cette chanson un classique instantané, mais je ne vais pas m'emballer non plus. Voilà. Bon, donc on va refermer cette rubrique sortie 2014 et passer à notre thème principal qui aujourd'hui est sponsorisé par cette charmante jeune dame.
Ah, Gloria Gaynor, on ne s'en lasse pas.
Oh, deux fois cette chanson dans la même émission, c'est beaucoup trop.
Je pense qu'heureusement qu'il n'y a pas de caméra dans le studio, puisque ma crédibilité aurait été réduite en miettes et
J'ai des preuves.
Enfin bref. Donc Gloria Gaynor, pourquoi on vous passe ça? Tout simplement parce que vous n'êtes pas sans le savoir, le mois de juin, en général, c'est tout ce qu'on appelle la quinzaine des fiertés, ce genre de choses, en France et dans le monde entier. Il y a deux semaines, c'était la Gay Pride de Lyon. Et hier, c'était la Gay Pride de Paris, et il me semble aussi dans d'autres grandes villes, style San Francisco, ou Londres, ou des trucs comme ça. Donc c'était quand même genre la grosse journée des fiertés LGBT, de toutes les différences, tout ça. Donc on s'est dit qu'on allait faire un petit, une petite émission spéciale là-dessus. Alors, consacrer à peu près la moitié d'une émission d'une heure à ce thème-là, ça permet pas de faire le tour de la question, et c'est pas du tout le point ici. Le point, c'est de passer de musique qu'on aime bien, qu'on connaît bien, d'artistes soit LGBT, soit associés à des mouvements militants ou ce genre de choses. Donc voilà, on a essayé de pas faire dans les trucs les plus connus, de pas passer du Liza Minnelli, de pas passer genre du Mylène Farmer, du Lady Gaga, enfin les trucs qui viennent peut-être immédiatement à l'esprit. Sur Gloria Gaynor, en fait, on a choisi ça tout simplement parce que cette chanson qui est sortie en 1983, I Am What I Am, qui fut un plutôt bide à l'époque, sauf dans le milieu gay où il est devenu instantanément cool. Oh, quel sarcasme là-bas. Enfin bref. Du coup, cette chanson est actuellement l'hymne d'une nation qui s'appelle la Gay and Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands, au large du Queensland en Australie. Donc c'est une petite île qui est actuellement la seule nation LGBT au monde, dont l'empereur, car il y a un empereur sur cette nation, s'appelle Dale Anderson the First, dont la monnaie est le Pink Dollar, tout un programme, et dont l'hymne national est donc I Am What I Am de Gloria Gaynor. Et moi, je trouve ça tellement cool que on s'est dit qu'on allait passer ça en jingle, surtout que c'est une chanson un peu chouette quand même. Enfin, même si elle est kitsch et tout, c'est plutôt sympa. Enfin bref. Donc voilà, le premier extrait qu'on va, enfin bref, extrait, chanson en entier, pardon, qu'on va vous passer pour ce thème, c'est un morceau de Divine, ou Divine, cet acteur et chanteur drag queen assez fameux, né sous le nom de Glenn Milstead en 1945 et mort sous le pseudonyme de Divine en 1988. Qui était l'égérie des films de John Waters, donc qui est très très fortement associé à toute l'esthétique camp, c'est-à-dire quelque chose de qui revendique le mauvais goût, qui revendique le travestisme très visible et loin des concours de beauté de drag queen qui essaient vraiment de ressembler à des belles femmes. Là, c'était un homme obèse, chauve, avec la perruque très en arrière sur le crâne, des sourcils énormes, dessinés un peu à la truelle, ce genre de choses, des robes qui ne lui allaient pas du tout à sa morphologie, pleine de paillettes et de couleurs, et des films très trash où il mange de la merde et Edith Massé se roule dans des œufs, enfin ce genre de choses. Et donc ce drag queen charmant, je vois Julien qui est mort de rire à côté.
Non.
Je crois qu'il a jamais vu un film de John Waters, c'est peut-être pour ça.
À l'évidence, non.
Enfin bref, du coup Divine, qui aspirait de manière assez fervente à la célébrité et de manière assez touchante en fait hein, quand on voit des documentaires sur lui, des interviews et tout, c'était vraiment quelque chose de sincère et c'était pas juste du m'as-tu vu.
Il y a un docu qui est sorti cette année
un film qui est sorti qui était aux écrans mixtes cette année qui s'appelle I Am Divine, qui est assez beau et assez touchant là-dessus. Et du coup voilà, lui il voulait vraiment devenir connu, devenir un vrai acteur et pas juste un monstre de foire ou un acteur comme ça travesti. Donc il en a profité pour se lancer, se faire connaître en faisant des choses choquantes et qui à l'époque dans les années 70 et fin des années 60 avaient une certaine publicité. Et puis après il a essayé de se lancer un peu quand même une carrière hollywoodienne ou dans le champ, et il a sorti plusieurs albums dans les années 80, dont un album, son troisième je crois, qui s'appelle The Story So Far en 1943, dont la chanson que nous allons vous passer, Shoot Your Shot, est extraite et était un des singles principaux. Donc c'est du disco punk glam trash un peu inclassable. Il se chante très très mal et c'est assez réjouissant. Donc voilà, on va le passer en vinyle, donc il y aura peut-être un son un peu old school, mais c'est une petite rareté en vinyle. Donc voilà, on vous laisse avec ça.
We'll be right back.
c'était Glenn Milstead, aka Divine, avec Shoot Your Shot. Donc les plus aguerris et les plus fans de disco d'entre vous auront quand même remarqué que cette chanson est un énorme plagiat de I Feel Love de Giorgio Moroder et Donna Summer. Donc là, le mec qui a produit et composé ça s'appelle Bobby Orlando. Donc voilà, Bobby Orlando est un sale voleur, mais la chanson est très très cool.
Ouais, quand c'est quand même entraînant, ça va.
Voilà. Et pour info, donc les paroles de cette chanson sont absolument dégueulasses. Hein. C'est de la vieille drague sexuelle, très très cam, très très. Voilà, c'est bon. Il veut pas grand chose d'autre que ce qu'il a entre les jambes, le monsieur à qui il s'adresse. Et ça reflète bien la fin de carrière de Divine, en fait, où la musique c'était plutôt accessible et plutôt dansable, on va dire, et d'ailleurs a eu quelques succès dans les dance floors, notamment cette chanson qui a été dans le top 50 néerlandais, je crois. Mais en même temps, les paroles étaient toujours camp et toujours assez vindicatives, et les concerts étaient réputés pour être des espèces de moments assez ahurissants, un peu orgiaques, très très provocants, où Divine faisait des choses très très sales sur scène et interagissait de manière assez violente et provocatrice avec le public. Et à un moment, je me demandais si j'allais pas passer du Donna Summer dans l'émission, et puis en fin de compte, je me suis dit qu'en fin de vie, elle avait eu des déclarations assez réac à cause de son tournant religieux à partir des années 90, et que du coup, même si c'était une icône gay, elle était plutôt controversée, et c'était plus simple de passer du Divine, c'est un peu moins connu, un peu plus, ça correspond mieux à l'esprit de l'émission, je trouve, donc voilà. Mais j'aime beaucoup Donna Summer quand même. Donc voilà, maintenant c'est Julien qui va prendre la parole et parler de quelque chose de relativement différent.
Ouais, on va parler d'un groupe de punk, alors a priori tout ce qu'il y a de plus classique qui s'appelle Against Me, un groupe de punk américain, qui vient de Floride, et qui sévit en fait depuis plus de 15 ans, qui a fait 6 albums en tout, mais qui a une histoire en fait un peu particulière. En effet, le chanteur de ce groupe, Thomas Gable, était atteint, on va dire, de manière chronique depuis les débuts du groupe de troubles de l'identité sexuelle. Et il est parti en dépression à cause de ça très régulièrement dans les années 2000. Et du coup, en 2012, il a pris la décision de faire son coming out, ou comme le veut le terme exact, sa transition, pour devenir en fait le leader transgenre du groupe Emily Jane White. Un choix qu'elle donc a déclaré déterminant pour sa santé psychologique. Et le dernier album en date de Against Me, qui est sorti en fait en début d'année, en janvier 2014 ou février, je me souviens plus, qui s'appelle Transgender Dysphoria Blues, est ainsi le premier document post-transition en quelque sorte, fourni par Emily Jane White et son groupe Against Me. C'est en fait un album donc de punk, mais en forme d'autoportrait assez passionnant, où elle raconte justement les troubles qu'elle a traversés, qu'elle a pu traverser dans sa vie précédente. La libération qu'a entraîné sa seconde vie, ça a une sorte de renaissance pour elle, et également la solitude et l'isolement occasionnellement provoqués aussi par son statut dans le milieu du punk surtout, mais également dans la société en général. Donc c'est un album qui est très intéressant d'un point de vue des paroles, d'un point de vue des textes d'un côté, mais ce qui est très intéressant également, et ce qui fait de ce disque à mon avis le meilleur album du groupe à ce jour, c'est la manière dont en fait donc justement ce concept album et le terreau très autobiographique du disque n'empiètent jamais en fait, n'entrent jamais en conflit avec les racines punk du groupe, et le fait qu'ils sont toujours très intéressés par livrer un album de punk traditionnel américain, très pied au plancher, très à tombeau ouvert, voilà, avec beaucoup d'hymnes comme ça, de mélodies très entêtantes et beaucoup de riffs très directs. Donc ça fait du coup un album qui est à la fois très personnel, très intime et très original, mais aussi qui est un album de punk très traditionnel dans le sens le plus dans le meilleur sens du terme, le sens le plus classique, voilà, un album très concis, très puissant. Donc voilà, c'est un disque très intéressant et donc qui fait d'Emily Jane White une icône assez particulière dans le milieu du punk aujourd'hui, dans le milieu du punk américain. Et on va vous passer l'un des extraits de ce disque qui résume le plus la profondeur un peu des textes dans cet album, qui s'appelle True Trans Soul Rebel, où en fait donc Emily Jane White se peint en l'icône punk éternelle qu'elle a toujours été, la rebelle qu'elle a toujours voulu incarner, même quand elle était encore Thomas Gable, mais la manière dont sa transition a pu changer la vision des choses de la part des autres, et son regard, et du coup a pu entraîner une certaine solitude de son statut également. Voilà, par exemple, elle le dit dans des textes assez brutaux, assez violents, où elle signale aussi sa dépression. Elle dit par exemple, ils me disent que j'aurais dû être une mère, j'aurais dû être une femme, j'aurais dû vivre une vie différente. Donc elle se sent isolée et en même temps libérée par ce nouveau statut. C'est une chanson qui dit ces deux choses à la fois, mais qui en même temps finit par ce refrain un petit peu mélancolique qui dit Who's gonna take me home tonight? Et qui se demande si Dieu bénit également les cœurs des transsexuels. Moi, je pense que oui. En tout cas, s'ils font cette musique-là, c'est parfait, vraiment. Merci Against Me et merci Emily Jane White.
Against Me avec True Trans or Rebel, issu de leur dernier album Transgender Dysphoria Blues. Vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2 dans le Petit Bazar. Je voudrais vite dire que personnellement je suis assez fier et assez content de passer ce genre de musique aujourd'hui. La communauté trans est très très peu représentée dans les médias, dans ce genre de choses, et moi je trouve ça bien qu'on... Je suis content qu'on fasse ça aujourd'hui. Et Julien, qui présentait le morceau tout à l'heure, évoquait les dépressions dont souffrait la chanteuse du groupe lors de sa phase de transition. C'est évidemment des problèmes psychologiques liés au fait de se sentir d'un corps psychologique différent, enfin d'une sexualité, d'une identité psychologique différente du corps biologique dans lequel on est né, et devoir cohabiter avec cet autre qu'on ne sent pas être nous, jusqu'à la période où finalement on termine la transition et on arrive à se libérer, à être en accord entre le corps biologique et le corps psychologique. Et c'est un sujet qui est assez difficile d'évoquer en détail et de manière, sans dire de conneries, quand on n'a pas vraiment traversé ça et quand on ne s'y connaît pas vraiment. Donc si on a dit des choses un peu inexactes, un peu floues, on s'en excuse.
Oui, oui, c'est
de faire de notre mieux. mais sur le sujet, je suis tombé par hasard dans une librairie il y a quelques jours sur une publication, je crois locale, qui s'appelle Le 1, qui tous les mois.
C'est vraiment parisien, je crois.
C'est parisien.
Ouais, j'ai vu des pubs à Paris.
Okay, parce que moi, je l'ai vu dans une librairie à Lyon, mais qui aborde tous les mois des sujets de société comme ça, avec des petits articles, des récits, des fictions, de la poésie, vraiment de tout. Et là, le thème du mois, c'était la transsexualité, les transgenres et les identités un peu floues comme ça. Et le numéro était vraiment assez passionnant. Il y avait des récits bouleversants dedans et un petit lexique qui résumait bien la différence assez complexe à saisir parfois entre transsexuel, transgenre, intergenre, intersexe et même travesti, drag queen et tout ce genre de choses. Donc je vous invite à essayer de vous le procurer et de le lire si vous voulez plus de trucs là-dessus, si plus d'infos là-dessus et que vous n'êtes pas forcément familier avec ce genre de choses et que ça vous intéresse. Et donc voilà, donc on referme cette petite page sur la transsexualité et sur les personnes transgenres. Et donc on va aborder un groupe beaucoup plus connu du milieu gay et tout ça, qui s'appelle Scissor Sisters, que personnellement j'adore énormément, que j'ai vu en concert, dont j'ai tous les albums. Donc, voilà, c'est un peu... Moi, le groupe phare de...
C'est la rubrique fanboy de l'émission.
Oui, voilà. Il y avait PJ Harvey il y a 3 semaines, et maintenant il y a 6h6.
Voilà.
donc, bref. Donc là, voilà, le premier album qui sort en 2004 de ce groupe, qui s'illustre initialement dans un registre électro-clash, hein, donc sous-genre de l'électro, très queer, très marqué comme ça, par des influences disco, des électro plus violentes et ce genre de choses. Et leur premier album qui fait... pas mal parlé d'eux, je crois qu'il est même nominé pour le Mercury Prize à l'époque, où il reçoit un ou deux prix aux équivalents des fêtes des victoires de la musique, mais en Angleterre, alors que c'est un groupe américain. Et donc voilà, la dernière chanson de ce disque s'appelle Return to Oz, donc le retour à Oz, en référence au magicien d'Oz, et utilise une métaphore filée donc de l'univers du magicien d'Oz pour s'alarmer et de la situation dans le milieu gay américain à la fin des années 90, où la généralisation de la drogue et notamment des méthamphétamines, ce qui est comparé à Emerald City, la cité d'Emerald dans Magicien d'Oz, a des impacts assez néfastes sur les pratiques sexuelles à risque et ce genre de choses, et bouleverse la vie de certains amis du groupe et ce genre de choses. Donc la chanson est très très triste et très émouvante, et le texte est très imagé et très très beau, et s'appelle Return to Oz.
Once there was a man who had a little too much time on his hands. He never stopped to think that he was getting older. But when his night came to an end, he tried to grasp for his last friend and pretend that he could wish himself health on a four-leaf clover. Said, is this the return to Oz? The grass is dead, the gold is brown, and the sky has claws. There's a wind-up man walking round and round. What once was Emerald City's now a crystal town. 3 o'clock in the morning, you get a phone call from the queen with 100 heads. She says that they're all dead. She tried the last one on, it couldn't speak, fell off, and now she just wanders the halls, thinking nothing at all. She said, is this the return to us? The grass is dead, the gold is brown, and the sky has claws. There's a wind-up man walking round and round. What once was Emerald City is now a crystal town. We'll be right back.
Return to Oz des Scissor Sisters, dernière chanson du premier album. Comme vous avez pu l'entendre, ça fait pas mal penser à des monuments du glam rock et de David Bowie, ce genre de choses. Et c'est un peu pour ça que le premier album est aussi probablement le meilleur du groupe, c'est qu'il est très très varié. On a autant l'impression d'entendre Elton John, enfin niveau influence Elton John, David Bowie, que des trucs d'électro et de disco dance beaucoup plus récents, et du coup c'est assez réjouissant à écouter. Alors que les suivants sont plus monolithiques dans leur approche d'un genre musical, soit ouvertement rétro comme le deuxième, soit plus électro comme les deux derniers, qui sont très très bons mais un peu moins bien. Donc voilà, c'était Scissor Sisters.
Et on va passer à, alors toujours dans ce thème, donc LGBT Gay Pride, on va passer à de la country. Alors la country, a priori, ça n'a rien à voir avec le milieu gay. Vous croyez pas si bien dire si vous pensez ça, parce que on va parler d'un album en fait qui est sorti au début des années 70 et qui est un peu mon chouchou depuis quelques mois, mais je l'ai découvert seulement il y a quelques mois pour la simple et bonne raison que en fait il est resté enterré pendant presque 40 ans. Et qu'il a fait l'objet d'une reissue il y a 2 ou 3 mois, ou peut-être un petit peu plus, je sais plus, en début d'année 2014 en tout cas. C'est un album qui s'appelle Lavender Country par un artiste qui porte le nom aussi de Lavender Country, qui s'appelle en réalité Patrick Haggerty, qui vient de Seattle. Et donc pourquoi cet oubli donc de 40 ans et cette redécouverte vraiment très récente? Bah pour des motifs qui sont assez tristes, c'est parce qu'en effet Patrick Haggerty était homosexuel. Et il a commis l'affront incroyable de vouloir faire de la country ce genre très traditionnaliste et très puritain par excellence aux États-Unis, mais un album de country qui serait ouvertement gay et qui ferait part de ses émois et de ses déboires sentimentaux et sexuels, donc comme à chaque fois pour la country, mais de manière ouvertement gay, ce qui lui a valu un accueil déplorable et presque une chasse à l'homme, et en tout cas un oubli de 40 ans. Voilà, en tout cas la country qui a vraiment méprisé très longtemps cet album et qu'il a un petit peu banni de son répertoire jusqu'à ce qu'il soit redécouvert très récemment. Et donc c'est une perte regrettable, cet album, pendant 40 ans à deux niveaux. Donc d'une part morale, voilà, ça pas besoin de le préciser, mais d'autre part musical aussi, parce que c'est un excellent album de country vraiment, et de folk traditionnel, avec plein de mélodies très surprenantes, de ballades très iconoclastes et très bien écrites, et un album qui surfe vraiment sur la musique traditionnelle américaine avec beaucoup de singularité et beaucoup d'humour. Qui est tour à tour émouvant, tragique et parfois très drôle aussi, parce que en fait justement Patrick Haggerty joue beaucoup du décalage de son homosexualité avec la musique qu'il chante, de manière vraiment très distanciée, très humoristique, et un humour très affroid qui a pu d'ailleurs choquer beaucoup, la preuve en est, donc les auditeurs de country de l'époque. Et un exemple de cet humour à froid, c'est par exemple la chanson qu'on va vous passer à présent, donc un countryman un peu trop moderne pour son temps, qui osait en 1973 appeler un de ses morceaux Crying These Cocksucking Tears. Donc je vous fais pas trop la traduction, je pense que vous aurez tous compris, et vous aurez compris également comment, donc avec voilà Crying These Tears, comment Patrick Haggerty joue avec les clichés un petit peu de la country traditionnelle, mais en les réadaptant un petit peu à ses orientations sexuelles, ce qui a fait beaucoup scandale à l'époque et qui maintenant nous vaut de le redécouvrir 40 ans plus tard. Et heureusement, parce que c'est vraiment un très bel album et une très belle chanson, et ça va être l'occasion aussi de vérifier la liberté qu'on a ici à Radio Canu et à la radio en général aujourd'hui, par opposition donc à il y a 40 ans, puisque il y a 40 ans, dans les années 70, un malheureux DJ américain avait eu l'idée de passer ce morceau à la radio et s'était vu retirer sa licence dans les années 70, voilà. Donc voilà, on s'étend un peu sombre de Kiwitas et autres mariages pour tous. Voilà, un petit message optimiste pour montrer que...
Manif pour tous.
Manif pour tous, qu'est-ce que j'ai dit?
S'il te plaît,
qu'est-ce que j'ai dit?
Mariage pour tous.
Ah oui, manif pour tous.
C'est l'inverse.
Oui, excusez-moi, je m'emporte un petit peu. Donc voilà, c'est en tout cas l'occasion de lancer un petit message un peu optimiste pour montrer que les mentalités ont un tant soit peu évolué. Puisque je pense pouvoir vous garantir que je reviendrai la semaine prochaine, contrairement à ce DJ américain il y a 40 ans, même en ayant passé Crying These Cocksucking Tears de Lavender Country. There won't be no straight men, 'cause you all have a common disease. Can't give very much for loving and such, but you take it wherever. Now you have guessed that I'm not. c'était Lavender Country avec Crying These Cocks Sucking Tears. On est un petit peu en retard pour terminer la rubrique, donc on va essayer de se dépêcher. Max, je te laisse parler.
Ouais, donc là je vais présenter les deux prochains morceaux qu'on va essayer d'envoyer quasiment d'affilée, parce qu'on n'a plus vraiment le temps. Donc le premier, ce sera un extrait de la bande-son du Rocky Horror Picture Show, donc film culte des subversions sexuelles sorti en 1975, réalisé par Jim Sharman, et musique de Richard O'Brien. Le film est avec Suzanne Sarandon notamment, et Meatloaf aussi, et Tim Curry bien sûr, qui joue le personnage principal. Donc la première chanson s'appelle Touch It, Touch It, Touch Me, et c'est un moment... de communion sexuelle, on va dire, entre les personnages, extrêmement subversif, puisque c'est le moment où le couple américain coincé se décoince totalement. Et la deuxième chanson, ce sera rien à voir, sera un petit piano voix d'un chanteur brésilien qui s'appelle Renato Russo, de son premier album sorti en 94 et qui s'appelle The Stonewall Celebration Concert, donc en hommage aux 25 ans des émeutes de Stonewall qui, rappelons-le, ont eu lieu en 1969 et qui ont donné lieu en fait à la première Gay Pride en 1970. Donc cet album là est nommé d'après les émeutes de Stonewall, donc on trouvait que c'était bien de finir l'émission avec ça. Ce sera notre phase B, c'est un album de reprise piano voix, et donc la chanson qu'on passera de Renato Russo, c'est une reprise d'un morceau de Stephen Sondheim dans le musical tiré du film Sourire d'une nuit d'été d'Ingmar Bergman, et c'est une chanson qui s'appelle Send in the Clowns. Donc là on va d'abord passer le Rocky Horror et après on passera le Renato Russo.
I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before.
You mean she?
I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. I've tasted blood and I want more.
More, more, more.
I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch it, touch it, touch it, touch me.
C'est un peu brutal comme fin. Donc voilà, on va donc refermer l'émission avec ce dernier morceau que vous annoncez tout à l'heure et vous dire. Donc c'était Renato Russo avec le titre
Send in the Clown.
Voilà, excusez-moi, j'avais oublié. Et on va vous dire du coup, on va vous laisser avec Pop, etc. Après, on va vous dire à la semaine prochaine. Salut.
Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clowns. isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. And where are the clowns? Send in the clowns. Just when I'd start opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair, sure of my line. No one is there. Don't you love farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. And where are the clowns? There ought to be clowns. Quick, send in the clowns. What a surprise. Who could foresee I'd come to feel about you what you felt about me? Why only now, when I see that you've drifted away? What a surprise, what a cliche. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. And where are the clowns? Quick, send in the clowns. Don't bother, they're here.